Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, 2 débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Jean-Marc Reiser, condamné à la perpétuité après l'assassinat de Sophie Le Tan. La France qui rapatrie pour la première fois des mères de famille détenues en Syrie. 16 d'entre elles sont arrivées ce matin à Villacoublay. Et puis, sale note en français pour les candidats au bac pro. Beaucoup n'ont visiblement pas compris ce que signifiait le mot ludique.
À 12h40, notre premier focus du jour, la grève prévue demain à la SNCF, les syndicats qui réclament des hausses de salaire. Est-ce justifié ou non? Et à 12h50, le Tour de France RTL chez vous avec Christophe Paco. 4e étape aujourd'hui entre Dunkerque et Calais.
Notre question du jour sur RTL.fr. Comprenez-vous cette nouvelle grève à la SNCF demain pour réclamer des augmentations de salaire? Vous dites oui à 25%, non à 73%. Notre météo, c'est avec vous Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et c'est une vraie journée d'été.
Ah voilà, journée estivale.
Comme on les aime.
Effectivement, sur la France, je regarde les images satellites, il n'y a pas ou peu de nuages, il y en a un petit peu, c'est vrai, entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, mais ça sert juste de décor, ça n'ira pas plus loin. Puis près des Pyrénées, là aussi, on a quelques nuages qui, eux, pourraient aller jusqu'à l'averse en cours d'après-midi. Hein. Seulement sur le relief pyrénéen, il restera aussi un petit peu de mistral et de tramontane près de la Méditerranée, jusqu'à 60 km/h. Attention, on est prudent, il y a toujours un risque d'incendie, hein. La sécheresse sévit près de la Méditerranée. Et puis les températures, elles sont estivales, 19 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord, 28 à 30 dans le sud et jusqu'à 35 près de la Méditerranée.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc, direction Strasbourg. Jean-Marc Reiser est donc condamné à la peine maximale après l'assassinat de Sophie Le Tan. La perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. La cour d'assises vient de rendre son verdict, Yannick Collant.
Oui, les jurés ont mis moins de 2 heures pour prendre leur décision. Ils ont suivi les réquisitions du parquet. Jean-Marc Reiser est condamné à la peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité avec 22 années de sûreté. Les jurés ont estimé qu'il s'agissait bien d'un assassinat, que tout était prémédité depuis le début. Une peine accueillie dans un silence total dans la cour d'assises. Aucune réaction de la part de Jean-Marc Reiser, stoïque. Soulagement à peine perceptible sur les bancs de la partie civile où toute la famille de Sophie Le Tan est réunie. Jean-Marc Reiser n'aura donc pas réussi à distiller le doute avec sa version, celle d'une rencontre par hasard et d'un déchaînement de violence incontrôlé, mais sans intention de donner la mort. Son attitude lors du procès et sa difficulté à demander pardon, ses dénégations aussi face aux évidences, auront pesé lourd dans la décision du jury, sans compter les témoignages plus accablants les uns que les autres et les expertises psychologiques qui donnaient un pronostic extrêmement défavorable pour l'avenir. Jean-Marc Reiser passera donc au moins 22 ans derrière les barreaux. Il aura 80 ans lorsqu'il pourra demander pour la première fois un aménagement de peine.
Yannick Collant depuis la cour d'assises de Strasbourg pour RTL.
Le soulagement des familles d'enfants de djihadistes détenus en Syrie.
35 mineurs et 16 mères ont été rapatriés ce matin. Ludovic Rivière est l'avocat de plusieurs d'entre elles.
La situation dans les camps ne cessait de se dégrader, notamment pour ces enfants. Il faut saluer quand même l'abandon de la politique du cas par cas, qui était devenue une politique absolument aberrante. On ne savait pas pourquoi tel enfant était rapatrié et pourquoi on laissait les autres dépérir dans les camps. La position de la France était devenue, y compris sur la scène internationale, totalement aberrante et insoutenable. Donc il faut saluer ce qui est manifestement un changement de doctrine.
Changement de doctrine concernant les enfants, concernant les femmes aussi. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
C'est la première fois que la France rapatrie des mères de famille. Certaines étaient d'ailleurs recherchées par la justice depuis des années.
Et oui, 16 femmes, dont la moitié visées par des mandats d'arrêt internationaux. Elles seront donc présentées dans les 24 heures à un juge d'instruction. Parmi elles, deux noms intéressent particulièrement la justice. Émilie Koenig, présentée comme une recruteuse de Daesh et visée par plusieurs mandats d'arrêt. Elle était dans le camp depuis la chute de l'État islamique en février 2019. Nous l'avions d'ailleurs rencontrée peu de temps après. Elle se disait alors victime de harcèlement de la part d'autres femmes radicalisées. Et puis, une autre femme, mariée elle à un djihadiste très connu des services de renseignement et proche de Mohamed Merah. Cette femme, recherchée, pourrait détenir des informations essentielles sur le système Daesh, sur les têtes pensantes. Et elle pourrait aussi être poursuivie pour des exactions commises en Syrie. Les autres mères, celles qui n'étaient pas visées par un mandat d'arrêt, vont être placées en garde à vue aujourd'hui. La DGSI à 96 heures pour les interroger. L'une d'elles, très malade, devrait être hospitalisée dans la journée.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL. La politique à présent et avant le discours de politique générale d'Elisabeth Borne demain à l'Assemblée. Réunion ce matin à l'Élysée. Emmanuel Macron a convoqué plusieurs ministres pour évoquer les mesures pour le pouvoir d'achat qui seront, elles, présentées jeudi en Conseil des ministres. Un projet de loi destiné à évoluer, a prévenu ce matin sur RTL Gabriel Attal.
On est prêt à des compromis avec les oppositions qui veulent faire des compromis. On a un cadre qu'on a fixé. C'est un, il faut que ça soit des mesures utiles pour les Français et leur pouvoir d'achat, évidemment. Deux, on a une trajectoire de réduction des déficits. Et c'est essentiel de poursuivre sur cette trajectoire parce que la réalité, c'est que la dette qu'on accumule, c'est potentiellement des impôts pour les Français demain, après-demain. Et trois, on ne veut pas augmenter les impôts des Français. Voilà quel est le cadre dans lequel on lance le travail sur ces textes et on aura une discussion très ouverte.
Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, invité ce matin d'Alba Ventura.
Reçu avec mention ou pas, c'est le jour J pour les candidats au bac.
Les résultats ont été publiés ce matin. Quelques impressions toutes fraîches.
C'est bien passé, j'ai réussi à avoir mon bac. C'était inespéré, mais bon, j'ai eu. Hein.
Pourquoi c'est inespéré?
Parce que c'était une année compliquée. Grande fierté. Pour tous mes profs, c'était inespéré. Mais moi, je savais dans le fond. Ce soir, ça va se la mettre. Plein d'admissions. Et bonheur à tous.
On sent bien. On sent bien.
Un grand moment, on est toujours très heureux.
Attends, Anaïs, je te prends en photo.
Moi, du coup, j'ai été admis mention assez bien. Donc je suis content, c'est ce que j'espérais. Pas plus, pas moins, donc je suis content, ça va. Je suis allé un peu au talent, mais c'est passé, donc c'était très bien.
Là, tu ressens quoi, là?
Là, je suis content, je vais appeler ma mère.
Au talent, ça passe parfois, souvent, des bacheliers heureux, en tout cas à Champigny-sur-Marne, micro RTL de Valentin Boisset. Du côté des élèves de Bac Pro, c'est un peu la soupe à la grimace pour certains. Les notes de français sont souvent plus basses que prévues. Beaucoup d'élèves n'ont en effet pas compris le sujet. Le jeu est-il toujours ludique? C'était la question. Le mot ludique, visiblement, a posé problème.
Moi, je pense qu'il y a eu un effet panique. Il y a beaucoup d'élèves qui sont tellement peu à l'aise avec l'écrit que... Et ils s'embarquent sur des voies et ils font de mauvais choix. On a essayé de se dissimuler, mais non, c'est pas si grave, c'est pas vrai, le niveau monte, etc. C'est faux. Quand on réduit le nombre d'horaires, on ne peut pas faire plus en ayant moins d'heures de cours. On a l'impression que c'est inéluctable et qu'on ne sait pas quoi faire pour arriver à freiner cette pente. C'est une sorte de débandade générale.
Philippe Richard, professeur de français, d'histoire et géographie dans un lycée professionnel de Lyon, des propos recueillis pour RTL par Armel Lévy. Près de Tarbes, un homme est toujours activement recherché après la mort hier de deux enseignants, un homme et une femme tués par balle. Patrick Hisson, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, la scène s'est déroulée peu après 18h hier soir dans une maison à 1 km du village de Pouillastruc. Gabi, un homme de 45 ans, a été froidement abattu dans sa salle de bain. La femme de 32 ans qui était avec lui a été traînée à l'extérieur et a reçu une balle dans la tête. Elle était encore vivante lorsque Cédric, un voisin qui est sapeur-pompier, a été le premier à tenter de lui porter secours alors qu'elle était allongée sur le sol.
Nue donc au sol, sur le ventre. Elle bougeait encore, malheureusement. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Donc il y avait du sang partout. Donc au début, je me suis demandé ce qui se passait. Il n'y avait personne autour. J'ai crié à l'aide. Je lui ai prodigué les premiers soins. J'ai vu qu'il y avait une douille de pistolet au sol. Je lui ai posé un coussin hémostatique d'urgence au niveau du front pour arrêter l'hémorragie. Des gens sont arrivés. La gendarmerie ensuite est arrivée. On sécurisait la zone. Moi, je me suis caché derrière la voiture en attendant, quoi.
L'auteur des faits, qui est activement recherché, a pris la fuite à bord d'une moto. Les deux victimes étaient tous les deux professeurs dans un collège de Tarbes. Gabi, professeur de sport, et Aurélie, prof de français. L'hypothèse d'un crime passionnel est privilégiée par les enquêteurs. 60 gendarmes sont mobilisés pour tenter de retrouver la trace du meurtrier.
Patrick Guisson, direct de Pouillastruc, dans les Hautes-Pyrénées, pour RTL. En Italie, les recherches ont repris ce matin après l'effondrement dimanche d'une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes. Une douzaine de personnes sont toujours portées disparues.
Une catastrophe directement liée à la vague de chaleur qui touche le pays.
L'état d'urgence a d'ailleurs été décrété dans 5 régions du Nord en raison de la sécheresse du jamais vu depuis 70 ans. La plaine du Pau, grenier agricole, est tout particulièrement touchée, comme a pu le constater notre correspondant. Pendant sur place, Olivier Bonnel.
À Ponte Lago Scuro, de véritables bancs de sable et de terre se sont créés qui craquent sous la semelle. Ici, le fleuve est 7 à 10 mètres en dessous de son niveau habituel et à certains endroits, on peut presque le traverser à pied. Il n'a pas plu depuis plus de 4 mois dans la région. Filippo Palara cultive du blé un peu plus en aval. Il ramasse un épi mort à ses pieds.
Là où on peut voir l'effet de la sécheresse, vous voyez cet épi ? À l'intérieur, il n'y a presque rien. La plante n'a pas d'eau. Elle est complètement vide.
La sécheresse dans la région est la pire depuis 70 ans. Le débit du pot est si faible que la mer rentre dans le lit du fleuve, faisant remonter le sel jusqu'à 30 km à l'intérieur des terres, endommageant les cultures. Selon le premier syndicat agricole italien, la Col Diretti, c'est 30% de la production de céréales dans le pays qui sont menacées par cette sécheresse.
Le reportage d'Olivier Bonnel dans la plaine du Pô, du foot à présent avec les premiers pas d'Igor Tudor à l'OM. Le nouvel entraîneur marseillais a donné ce matin sa première conférence de presse et le Croate est visiblement heureux d'être là.
Premièrement, je voudrais saluer tout le monde. Je m'excuse, je ne parle pas encore français. Je voudrais remercier le président pour ses belles paroles me concernant. Même si je ne comprends pas totalement le français, j'ai pu comprendre ces quelques mots. Je voudrais le remercier pour cette belle opportunité, ce grand défi.
Belles
paroles.
Oui,
il parle en italien, c'est un croate qui parle en italien.
Au micro RTL de Célestin Bougère.
Du côté du Paris Saint-Germain, première prise de parole aujourd'hui pour Christophe Galtier.
Ce sera tout à l'heure à 14h. Bonjour Eric Silvestro.
Bonjour.
Alors est-ce que c'est le bon homme à la bonne place? On va jouer, si vous le voulez bien, au jeu des plus et des moins, les plus d'abord.
Eh bien Christophe Galtier colle parfaitement au nouveau projet moins bling bling du club de la capitale et surtout c'est le choix du nouvel homme fort du PSG, Luis Campos. Leur collaboration à Lille avait parfaitement fonctionné, même si le Portugais était parti quelques mois avant le titre de champion du LOSC en 2021. À 55 ans, Christophe Galtier est sans conteste l'un des meilleurs entraîneurs français. Avant son passage dans le Nord, il avait redressé Saint-Etienne et décroché la Coupe de la Ligue en 2013 avec les Verts. Et même si sa dernière saison à Nice, 5e de Ligue 1 et finale de Coupe de France perdue contre Nantes, Pascal, est un peu plus mitigée, ses 3 trophées UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1 parlent pour lui.
Bon, il y a quand même quelques doutes, non ?
Bien sûr, le scepticisme d'abord d'une partie des supporters parisiens, car Galette, comme on le surnomme, est un vrai Marseillais né dans la cité phocéenne et qui a porté le maillot de l'OM. Son inexpérience du très très haut niveau également et notamment des grandes rencontres de Ligue des Champions, principal objectif du PSG. Et puis Galtier sera-t-il capable de gérer l'ego des multiples stars parisiennes, Mbappé, Messi, Neymar et compagnie? Eh bien si les internationaux n'étaient attendus que lundi prochain à l'entraînement, sachez qu'ils sont déjà tous à Paris. Neymar était même au camp des loges ce matin.
Vous me direz que les autres n'ont pas réussi à gérer précisément ses égos. Donc,
Laurent Blanc y était un peu parvenu. Mais
donc voilà. Galtier, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
En tout cas, c'est à lui, le challenge est intéressant pour lui et la reprise de la saison, c'est début août. Merci Eric. Notre premier sujet dans une seconde, la grève de la SNCF avec le temps des vacances arrive aussi parfois celui des grèves à la SNCF. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Le TGV 2085 à destination de Strasbourg partira voie 6.
Voilà le genre d'annonce qu'on risque de moins entendre demain. La veille du début des vacances scolaires, les syndicats de la SNCF appellent en effet à une nouvelle journée de grève. C'est sur les lignes TER que le trafic devrait être le plus perturbé. 2 trains sur 5 seulement côté TGV. 1/4 des trains seront supprimés. Ce n'est pas le premier mouvement. On en a connu plusieurs ces derniers mois. Parfois c'est régional, parfois c'est national. Alors faut-il s'inquiéter pour nos vacances? Que se passe-t-il à la SNCF? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous. Martial Liu, chef du service économie de RTL. Bonjour Martial.
Bonjour.
Et Gilles Dansard, bonjour, directeur de Mobilettre, la lettre spécialisée dans le transport. Bonjour. Gilles Dansard, d'abord, le mot d'ordre pour la grève de demain, c'est la hausse des salaires. Elle est justifiée, d'après vous, cette grève?
C'est une grève qui est similaire à celle qui a pu avoir lieu il y a quelques jours dans les aéroports.
Alors, on a...
Et qui est consécutive à la revalorisation...
Alors, on a un petit problème de liaison avec vous, Gilles Dansard. On va essayer de rétablir tout ça. Martial, on le disait, enfin, oui. Gilles Dansard commençait à le dire. C'est ce qui se passe à la SNCF, c'est un peu ce qu'on a connu dans les aéroports le week-end dernier.
Oui, et dans les mouvements de grève qu'on a connus ces derniers jours ou dernières semaines au sein du RER et de différentes liaisons. En fait, c'est des revendications salariales. Pourquoi ça tombe demain? Alors, on en a fait un peu le procès en disant, comme par hasard, ça tombe au début des vacances. Ça tombe aussi le jour où vous avez une table ronde de négociation avec la direction, précisément sur les augmentations de salaire. Les cheminots sont comme tout le monde, frappés par la hausse des prix en ce moment. pratiquement 6% d'inflation. Et donc, ils réclament des augmentations de salaire. Ils mettent la pression au moment où on en discute avec la direction. Il y a quand même un mouvement d'ordre national là, qui peut avoir de l'impact. D'abord parce que c'est là où on va aller en vacances, précisément, que ça va se passer aussi avec les TER. Et puis, il y aura des mouvements quand même assez importants sur Paris. Ça fait écho aussi à ce que disait Jean-Pierre Farandou il y a quelques jours. C'est-à-dire que là, ils demandent ils réclament des augmentations générales. Ils n'en ont pas eu depuis 2014, les cheminots. Et Jean-Pierre Farandou, il y a quelques jours, a dit on va connaître un été incroyable. 8 millions de billets vendus, plus 10% par rapport à 2019. Donc évidemment, les cheminots se rappellent à leur PDG pour lui dire ce serait bien qu'on en profite aussi.
C'est un copier-coller des revendications des hôpitaux. Moi, je suis frappé quand j'entends conditions de travail, oui, investissement qui n'est pas au rendez-vous, matériel à rénover, salaire très bas. Et quand on écoute les revendications, à chaque fois, on a envie de dire mais ces gens ont raison.
Bah, c'est celle que vous retrouvez dans beaucoup de services publics ou en tout cas d'anciens monopoles publics. Là, c'est la SNCF. Vous entendez ça aussi effectivement dans l'éducation nationale comme dans les
exactement,
hôpitaux. Oui.
Et ouais, on a plutôt envie de dire que leurs revendications sont justes, notamment sur le matériel à rénover, notamment sur le fait que à la SNCF, comme l'éducation nationale, on est plus attractif. On ne l'est plus, on est plus attractif parce que les salaires sont trop bas. Donc on ne peut pas recruter les gens dont on a besoin, qui demandent un haut niveau de compétences parfois, pour changer par exemple les caténaires. J'entends cela.
Gilles Dansart, on a retrouvé la liaison avec vous. Martial You nous expliquait effectivement ces revendications de salaire. C'est un problème commun aux services publics, alors même si la SNCF n'est plus à proprement parler une entreprise publique.
Oui, il y a une demande générale de revalorisation des salaires. Il ne faut pas oublier qu'à la SNCF, il y a beaucoup de salaires très bas, notamment dans la partie maintenance, que l'on ne voit pas quand on circule dans les trains. Il y a beaucoup de petits salaires avec des horaires difficiles. Et donc, en sortie de pandémie, avec de l'inflation, eh bien, ces catégories de personnel demandent une revalorisation de leur salaire. Ajoutez à cela que la SNCF et l'État ont sous-estimé la reprise post-pandémie et donc il y a un afflux de travail. Toutes les rames sont sollicitées, notamment pour les TGV, et les personnels sont très sollicités. Donc il y a,
et chaque jour, on annule des trains,
d'une certaine façon, un fossé entre... Eh oui, on annule des trains chaque jour. Et les taux de remplissage, qu'est-ce que ça veut dire, taux de remplissage? C'est le nombre de sièges occupés réellement par des clients et des passagers dans un train. Il explose, il est à 85-90%. Et donc, si la SNCF avait pu mettre plus de trains, il y aurait eu plus de passagers. Donc, il y a une forte tension. Et là, d'une certaine façon, l'État et la SNCF...
Il y a je pense qu'il faut, il y a une tension sur la ligne, manifestement, et on va essayer de la sécuriser. Mais c'est vrai que l'État, et c'est ce que dit M. Dansart, l'État n'a pas pris la mesure de plein de choses. D'abord, effectivement, de la reprise, puisqu'il y a une demande très très forte aujourd'hui. Et puis, je le répète, n'a pas pris la mesure de la rénovation possible, de la modernisation possible. Le site de la SNCF, par exemple, c'est un exemple tout simple. Non, mais c'est une catastrophe.
Alors là, c'est un débat en soi.
Je vous assure,
celui qui a inventé le site de la SNCF, c'est extravagant.
C'est
quand
pas
même
faute de moyens là. Pour le coup, c'est pas. On a mis des gros moyens.
Vous êtes allé sur le
sujet. On a fait des sujets.
Mais comment est-ce possible?
Écoutez, là, je sais pas très bien.
Il y a trop de gens à la com, à la SNCF, et peut-être pas assez sur le terrain sur les rails.
Une partie a été externalisée pour cette mise au point de SNCF Connect. Ils sont en train de corriger petit à petit les choses.
Je parle pas de l'application, je parle du site là.
Oui, mais moi, je vous parle de l'application qui a posé problème aussi quand elle a été lancée. C'est vrai, il y a eu des millions de gens qui soi-disant ont testé une application qui finalement fonctionnait pas. Alors là, c'est une grève carrée, ça veut dire que ça dure 24 heures et logiquement après on n'en parle plus. Oui. Ça, on sait que ça peut toujours repartir. Vous avez des préavis de grève qui courent tous les jours à la SNCF. Donc à tout moment, on peut en redémarrer une, ça c'est évident. Après, la question c'est est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'avant? C'était un peu ça la question qu'on se pose. Alors c'est vrai qu'il y a eu un changement de statut en 2017-2018 qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus embauché à la SNCF comme au statut de cheminot que vous connaissiez avant. Et par rapport à ce qu'on vit là, qui est toujours à un moment de tension lors des départs en vacances, on a quand même eu des années pires que ça, 2017-2018, justement, quand il y avait cette réforme de la SNCF et les grèves, plus Et là, on n'est pas encore sorti de l'auberge, j'ai envie de dire, plus la canicule, parce que ça, c'est un problème récurrent.
Et ça, c'est toujours un problème, ouais.
Et en fait, quand il fait chaud, il y a un problème. Quand il fait froid, il y a un problème.
Juste un mot sur le prix, Martial, dire, c'est plus cher aujourd'hui que ça n'a été ou pas?
Alors, c'est ce que l'INSEE a dit, effectivement. Plus 14,6% de hausse sur les billets de train entre avril 2021 et avril 2022. C'est remis en cause ce chiffrage-là de l'INSEE par la SNCF elle-même qui dit que ça ne sert à rien de prendre comme référence 2021 parce que c'était une année atypique, ce qui est vrai.
Ce qui est vrai,
et donc, on avait des prix particulièrement bas parce que nos trains étaient vides. Mais il n'empêche, eux, ils disent que ça a baissé par rapport à 2019, les prix. Il n'empêche que vous voyez bien, lorsque vous réservez des trains aujourd'hui, vous avez des liaisons qui sont plus chères que si vous prenez l'avion, par exemple. C'est embêtant.
Paris-Bordeaux, deuxième classe, si vous voulez partir cet après-midi, midi, sans carte, sans rien, 160 euros.
Juste l'aller ou l'aller-retour?
À l'aller, uniquement l'aller. Vous revenez pas là. Vous
restez à Bordeaux.
160 euros, seconde classe.
Alors, la plus chère, je crois que c'est Paris-Nantes, que vous connaissez bien, qui est sans doute la plus chère de France.
À mon avis,
Paris-Lyon, c'est pas mal aussi. Oui.
je voudrais savoir pourquoi. 12h51. Merci Martial.
Je vous en prie.
RTL Midi. Tour de France 2022. RTL, chez vous. Christophe Paco.
Bonjour à tous. RTL chez vous à Dunkerque ce midi, où un hommage sera rendu dans quelques minutes par le peloton aux victimes dimanche de l'attentat de Copenhague. Une minute d'applaudissement est prévue juste avant le départ en direction de Calais. Le point étape dans RTL chez vous avec nos amis du Parisien aujourd'hui en France. Question du jour, métier du tour, le coup de cœur de Laurent Jalabert. Et sans plus tarder, plaisir de retrouver sur le Tour de France le dernier vainqueur français justement de la Grande Boucle en 1985, Bernard Hinault, 5 fois vainqueur de l'épreuve reine. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2022. RTL chez vous.
Rencontre du jour au village départ avec, Bernard Hinault, la légende, bientôt les pavés, bientôt l'Alpe d'Huez. Formidable de vous retrouver sur le tour comme chaque année.
Bah, c'est un plaisir. Donc là, je fais une petite opération avec Century 21 où on offre des vélos à des enfants qui sont défavorisés. Et mon rêve, c'est que peut-être dans ceux-là, il y aura un champion.
Il y a eu un très beau départ au Danemark, vous l'avez vécu, j'imagine, à distance. Le Nord, c'est un pays de vélo aussi.
Ah ben, ça va être un pays vélo et je pense qu'aujourd'hui, en plus, les conditions climatiques sont superbes. Je crois qu'on va avoir beaucoup de monde. On ne peut pas en mettre plus qu'il y en a.
Non, c'est sûr. Je me souviens de quelqu'un qui avait un maillot, je crois, arc-en-ciel sur des pavés aussi. Je sais pas, demain, ça va vous rappeler des choses quand même, ces secteurs pavés.
Ouais. Un petit peu. Paris-Roubaix. Des bons moments et puis des mauvais moments. Parce qu'en 80, il y avait des pavés sur le tour et puis ça, il y avait deux fois, ça faisait 27 ou 30 km. Et bon, j'ai un genou qui a explosé avec ça. Mais j'ai gagné aussi la veille sur les pavés. Donc je savais aussi faire des pavés quand il fallait.
Le vélo vous plaît toujours et c'est vrai que cette opération avec Century 21, c'est d'offrir des vélos aux plus défavorisés. Et chaque année, il y en a de plus en plus. Ça, c'est devenu une tradition.
On fait 10 opérations. Ça fait une centaine de vélos et donc là, ça fait 7 ans. Ça fait déjà 700 vélos qui ont été distribués. Ça serait génial de voir un enfant qui arrive quand t'es vieux et qui t'a dit il y a 10 ans ou 15 ans, tu m'as offert un vélo. Ça m'a donné le goût à le pratiquer. Et aujourd'hui, je suis là et j'ai gagné le tour peut-être.
Belle journée surtout. Merci. Sur le Tour de France que vous aimez tant. Merci Bernard Hinault.
Merci.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Les métiers du tour. Et on retrouve avec plaisir un sacré champion, Sandy Cazard. Salut Sandy.
Salut.
Vous êtes au volant d'une voiture toute blanche?
Non, il y a le maillot blanc pour Chris qui est dessiné dessus, mais c'est une voiture d'invité, elle est plutôt marron, noire au sein de la course.
Ah, le maillot blanc aujourd'hui quand même, en ce mardi, c'est important.
C'est la journée blanche pour Chris qui fait une journée un peu spéciale. Mettez tous sur le bas-côté, si vous pouvez, un maillot blanc et ça offrira pour chaque maillot porté 2 heures de soutien à des enfants un peu en difficulté.
Ah oui, 2 heures de soutien scolaire, ça veut dire que s'il y a 10 000 personnes, c'est 20 000 heures de cours?
C'est tout à fait ça. Et c'est pour une association, la FEV. Plus il y aura de maillots, plus il y aura de soutien aux jeunes en difficulté.
Sandy Cazard, en plus, on sait que c'est important, puisque vous travaillez pour un lunetier. C'est très très important. En plus, vous avez vécu, vous, une mésaventure. Tout le monde se souvient, ou presque. On parle pour les petits jeunes. Mais à Angoulême, ce chien qui traverse devant vous.
Bah, je l'ai vu, le chien, mais vraiment trop tard. Là, c'était un manque de réflexe. Quoique, c'était vraiment trop trop juste. Mais voilà, ça fait partie, avec des lunettes, je l'aurais peut-être vu un peu plus tôt.
Vous avez gagné l'étape, quand même.
j'ai gagné l'étape. Ah. Et peut-être que le chien m'a permis à me libérer dans le final.
Combien de victoires sur le Tour de France ?
3 victoires.
Ouais, pas mal quand même, non ?
C'est pas mal, mais on en veut toujours plus, ça.
Sandy Cazard, dès que vous voyez le maillot blanc, le meilleur jeune, c'est lui dans la voiture. RTL chez vous, métier du Tour, c'est un beau métier sur le Tour de France, d'être dans la reconversion finalement ?
Oui, moi c'est un beau métier, mais c'est surtout que c'est une passion. Je revois encore les bruits, les sons, les odeurs, et là, dès que je suis déjà derrière certains coureurs, bah voilà, j'ai l'impression d'être encore coureur et sur le vélo.
Belle journée en blanc, Sandy Cazard, ambassadeur de Chris sur le Tour de France.
Et venez sur le bas-côté en blanc.
Bonne route !
Merci.
RTL, chez vous, Christophe Paco.
La question du jour avec Hortense Crépin. Est-ce que les gens du Nord vont être aussi fans du Tour que l'ont été nos amis danois ? Ça, c'est une vraie question, Hortense.
Alors, est-ce que le public dans le Nord va mettre autant d'ambiance ?
Sûr. Ah oui. On n'a pas peur du vent, on n'a pas peur de la pluie, on est des combattants.
Donc comment vous allez les encourager ? Parce que les Danois, ils ont quand même mis la barre très très haut. Hein.
Oh bah nous, on a de la voix, hein. C'est reconnu. Hein.
On va la surpasser, cette barre.
Il n'y a pas mieux que les Dunkerques, quoi.
On est toujours là, toujours. Les Danois, ils le font une fois dans l'année, leur voix. Mais nous, on l'a fait tous les jours, notre voix.
Ah bah sans problème, ouais, les ch'tis, ils sont là, ils seront là tout au long de la route. Et ouais, on va mettre du bruit. Vous le voulez avec ou sans le mégaphone ?
Ah bah avec le mégaphone, évidemment.
Allez, tous ensemble, ouais.
Voilà Christophe, en tout cas les nordistes sont prêts et là la température commence à grimper. Réponse cet après-midi pour voir qui des Danois ou des Français donnera le plus de voix.
Le Tour d'Hortense, n'oubliez pas, c'est tous les matins, 8h45 sur RTL.
RTL, chez vous.
On l'évoquait hier avec un des enfants du pays, Cédric Vasseur, le manager de Cofidis, avec nos amis d'aujourd'hui en France, le Parisien, Christophe Bérard. Dites-moi, on passe chez eux, on est sur leur terre, mais ils ne gagnent pas si souvent que ça.
Ben, c'est-à-dire que Cofidis.
Sur le Tour de France.
Absolument, Cofidis. Alors faut savoir que le dernier vainqueur d'étape sous le maillot de Cofidis, il s'appelle tout simplement Sylvain Chavanel. C'était en 2008. On en est à 14 ans d'une série, une série qui est quand même. Qui pèse dans les esprits chez Cofidis. Il parle même en souriant qu'il y aura un chat noir dans le bus. Non, pour une équipe de la dimension et du budget de Cofidis, c'est quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et là, cette année, ils sont persuadés enfin de toucher le jackpot.
J'ai pas compris le nom du vainqueur d'étape aujourd'hui.
Alors, une toute petite pièce à miser, mais vraiment une toute petite, c'est une petite pièce jaune plutôt. Allez, petit coup de cœur, Anthony Pérez, qui est un baroudeur, on sait jamais. Sur ce parcours, un peu de vent, la dernière bosse, pourquoi pas.
Pas mal, pas mal. Christophe Bérard à lire aujourd'hui en France, le Parisien. À demain.
À demain.
Tour de France 2022. RTL, chez vous.
Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
Votre coup de cœur pour un superbe maillot jaune sur le Tour de France.
Ah oui, c'est un gros coup de cœur pour un garçon qui éclabousse quand même le cyclisme mondial de toute sa classe. L'hiver sur les cyclocross, et puis quand la saison sur route reprend, dès les premières courses, il est percutant, il gagne. Et sur le Tour de France, en plein mois de juillet, avec la grosse chaleur, il continue. Donc je suis très content qu'enfin Wout Van Aert ait pu revêtir ce maillot jaune qui lui va finalement très bien. On arrive en Belgique dans quelques jours, pour la 6e étape, ce sera jeudi. Souhaitons-lui de le garder encore au moins jusque-là.
Ce serait formidable, évidemment, pour les Belges, pour l'accueillir à Binge pour cette étape. Mais auparavant, il y aura les pavés. On en reparle demain, Laurent Jalabert. Et ce soir, dans votre club Jalabert, c'est à quelle heure, Laurent Jalabert ?
C'est à 18h30, Christophe. Soyez à l'heure. Hein.
Alors, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Christophe Paco, RTL, chez vous.
Bonne route, la course toutes les demi-heures avec Christian Olivier, Nicolas Georgerot, Hortense Crépin. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL, chez vous.